C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Salut Philippe Léger.
Salut,
merci. Écoute, Philippe, qu'est-ce qui se passe avec la CAQ et qu'est-ce qui se passe avec François Legault? Là, on rentre dans le vif du sujet.
Ouais, c'est fascinant. C'est pour ça que la politique, elle est intéressante de temps en temps.
Mm-hmm.
Bon, pas tout le temps. Des fois, c'est pas toujours glorieux, mais des fois, c'est hyper intéressant.
On savait que ça pouvait pas durer. Là. Il caracolait François Legault avec des marges qu'on avait
tellement
jamais vues, à des hauteurs de satisfaction jamais vues. Là, ça se craque.
Ça se craque, parce que, comme on vient de le dire, la coalition Avenir Québec, le gouvernement Legault est à 30% dans les sondages. C'est une baisse de 11 points depuis l'élection de 2022. C'est plus que quand même. Là. C'est une grande dégringolade pour la coalition Avenir Québec. Et pendant ce temps-là, le PQ de PSPP, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, monte à 26%, qui devient un peu l'alternative. Moi, je l'analyse de cette façon. On pourrait l'analyser de toutes sortes de façons, Martin, mais moi, je l'analyse véritablement de cette façon-là. C'est un jugement envers le gouvernement Legault et plus précisément envers François Legault depuis l'élection de octobre 2022. Ce que je veux dire par là, moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui sont tannés de la façon de faire de la politique de François Legault, du gouvernement Legault, de dire une chose et son contraire et de dire après le contraire de son contraire. Je pense ici au troisième lien. À Québec, le fameux lien entre Lévis et Québec qui l'a promis, qui l'a, je sais pas si ça se dit, mais dépromis. Ça se dit pas, j'invente ça, là, mais après qu'il l'a repromis en disant qu'il allait consulter la population. Moi, je pense qu'il y a un sentiment général, un peu de jugement, de dire, hey, arrêtez de nous prendre pour des niaiseux dans ce dossier-là.
Puis il y a une marge entre revenir sur, comment je te dirais ça, donc admettre une erreur puis revenir sur ta parole. On dirait qu'il confond des fois.
Écoute, moi, qu'est-ce qui est arrivé, là? François Legault a promis pendant 6 ans le troisième lien, OK? À 10 milliards de dollars. Il disait que c'est un projet extrêmement important pour la capitale, c'était inévitable pour la ville de Québec. Arrive, différentes études. François Legault dit, OK, on peut plus le faire à cause du coût. Arrive une élection partielle dans Jean Talon parce qu'une députée de la CAQ démissionne.
À Québec.
À Québec. La CAQ mange une volée. Et le lendemain, François Legault dit, écoutez, là, peu importe ce que nous ont dit les études, peu importe ce qu'on a pu dire dans le passé,
finalement,
le projet est de nouveau inévitable et extrêmement important. Mais moi, j'irais même plus loin sur le jugement. Regardez ce qui se passe avec la fonction publique. Il y a un peu plus de 600 000 employés qui sont en grève présentement et qui demandent...
Difficile.
Exactement. Ouais. Le gouvernement... 600 000 personnes au Québec, c'est beaucoup. Là. C'est une répercussion dans les sondages. Là, professeurs, des infirmières, ainsi de suite.
On connaît tous quelqu'un qui est dans le Front commun.
Exact. Puis quand on leur parle, ils sont en tabarnouche présentement.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on nous dit?
T'es poli, t'es bien élevé.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est parce qu'ils disent hors d'onde.
Ouais, hors d'onde, moi aussi, j'aurais utilisé un long mot. Mais ce qui est fascinant là-dedans, François Legault nous dit, écoutez, on n'a pas la capacité de payer pour donner plus d'argent aux infirmières, aux professeurs, aux différentes personnes de la fonction publique. Mais pendant ce temps-là, si on veut attirer une multinationale comme Nordvolt pour fabriquer des batteries, là, on a du cash, des subventions, des milliards de dollars. Fait que je pense qu'il y a un jugement global dans la façon dont François Legault a fait de la politique. Juste sur ce dernier dossier-là. Quand il parle aux profs, aux infirmières et ainsi de suite, il dit, on n'a pas la capacité de payer. On est en déficit.
Oui.
Quand vient le temps de donner de l'argent ou des baisses d'impôts auparavant, ou donner de l'argent à certaines entreprises, là, dire, on a de l'argent au Québec. Ouais. Fait que je pense que c'est ce jugement-là.
Ça, c'est une affaire de
d'incohérence.
Et c'est ça. Incohérence, c'est effectivement un bon mot. Fait que là, pendant que François Legault descend dans les sondages, c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon, PSPP, chef du Parti québécois qui gagne des points.
Ouais.
Comment ça s'explique? Pourquoi c'est que ça semble être un vase communicant cette fois-ci?
Bien, c'est sûr que c'est un vase communicant.
C'est
parce
ça.
Que c'est comme si... Bon, d'abord, PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ce qui est fascinant, c'est que si on avait dit ce nom-là ensemble en chronique, on était ensemble pendant l'élection, il y a personne dans son auto qui aurait su c'était qui Paul-Saint-Pierre Plamondon.
D'ailleurs, félicitations à toi, parce que de plus en plus,
tu sais
le dire convenablement.
Je suis rendu, là.
Et bon, là.
Avant, je disais PSPP, là, c'est plus facile.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Là, je suis rendu à Paul-Saint-Pierre Plamondon.
T'es là,
compris, il faut arrêter de respirer avant, puis là, après, on le dit. Mais bon, c'est assez fascinant. Là. Ce serait lui, selon les Québécois, qui ferait le meilleur premier ministre devant François Legault. Il y a un an, personne ne savait c'était qui. Sa notoriété était presque nulle. Et là, il y a comme une petite coup de foudre qui s'est fait entre le chef du Parti québécois et le reste de la population. Moi, je trouve ça assez fascinant. Il était à 9 % le PQ était à 9 % en septembre 2022, un mois avant la dernière élection.
Capoté.
9 % Tout le monde disait, on écrivait l'oraison funèbre, la fin, peu importe ce qu'on dit du Parti québécois. Un an plus tard, il est à 26 %. Moi, j'ai rarement vu son politique.
Puis pour les autres partis, qu'est-ce que le sondage dit en ce moment?
Rien. Ça n'a pas bougé tant. Hein. Les autres sont en même place.
La même chose. Là. Le Parti libéral du Québec se cherche encore un chef. Il n'y a personne qui veut se présenter. Ah, mais c'est réglé.
Pour revenir à la CAQ, là, ils se sont positionnés quand il y a eu les dernières élections comme étant un parti du renouveau, puis que les autres étaient des vieux partis. Ouais. On dirait que là, sont devenus un vieux parti.
Mais c'était un peu inévitable. Là. Regardez, c'est qui la coalition Avenir Québec? C'est des gens d'un peu partout.
Ouais.
Des péquistes, des libéraux, je veux dire, il n'y a pas de solidaire, mais quasiment, là. Je veux dire, c'est des gens du Parti libéral du Canada, des gens du Parti conservateur du Québec qui se sont dit, nous, on va faire un parti politique. Mais c'est tous des gens qui faisaient déjà de la politique.
C'est des déçus. Puis quand t'es déçu, faut t'aille vécu.
Exact. Wow. Bien dit, Martin. Ouais. Mais, puis voilà. Fait que c'est tous des gens qui ont déjà fait de la politique, qui se sont mis ensemble en disant, on va créer un renouveau. Ça a fonctionné pendant quelques années. Là, ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Donc, ça fait quand même 5 ans qu'ils sont au pouvoir. On s'aperçoit que c'est un peu des gens qui ont été là plus longtemps puis que c'est un peu du pareil au même. Mais c'est sûr que... T'sais... Mais ce qui fait encore plus mal, j'irais plus loin, c'est que c'est le jugement des Québécois envers François Legault.
Ouais.
La Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui n'est pas bâti autour d'une idée. Par exemple, le Parti québécois est bâti autour de l'idée de l'indépendance. Québec solidaire est bâti autour d'un projet de gauche.
La CAQ, c'est le chef.
La CAQ, c'est le chef. Et donc, si les Québécois portent un jugement difficile envers le chef de la Coalition Avenir Québec, je veux dire, les problèmes deviennent se compliquent et deviennent extrêmement compliqués pour la CAQ qui est bâtie autour de François Legault et un seul homme.
Mais Philippe, pendant que tu nous parles, nos auditeurs réagissent sur la messagerie texte et pour vrai, à 95%, tu parles des raisons puis de la perception. Là, eux autres, ils reviennent vraiment tous avec le 30 000, le 30% d'augmentation. Aux députés, l'augmentation, ça fait mal à l'image. Ça va avoir l'air de quoi, tu penses? Parce qu'on le dit en politique, 6 mois, c'est une éternité. On est encore loin d'une élection provinciale. Dans ta boule de cristal ce matin, est-ce que tu vois que ça s'accentue, que ça se stabilise? Est-ce que la CAQ va réagir? Tu vois quoi?
Quand c'est l'hiver qui arrive,
Je
ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter un traîneau qui descend une côte, mais c'est extrêmement compliqué d'arrêter un traîneau qui descend une côte. Ben, c'est parce que c'est difficile en politique d'arrêter une chute. Bon, est-ce que ça va arrêter? Est-ce que la chute va arrêter? Probablement que ça va pas diminuer jusqu'à 15%. Mais non, là, faut pas être fou. Mais arrêter un traîneau qui descend une côte, c'est extrêmement difficile, puis c'est la même chose en politique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on disait souvent, il y a 89 députés. La CAQ a élu 89 députés à la dernière élection. 90, puis ils n'ont perdu un. Donc, en ce moment, ils ont 89 députés.
Ouais.
Moi, pour parler à beaucoup de personnes dans le milieu politique, qu'est-ce qu'on dit essentiellement? On dit, en ce moment, qu'il y a plusieurs députés qui regardent les ministres aller, donc des gens qui n'ont pas été nommés ministres, qui se disent, moi, j'aurais pu faire la job. Moi, je serais meilleur que ce ministre-là. Et un ministre dit, moi, j'aimerais être dans ce ministère-là qui est plus important. 89 députés, là, le grenouillage, la frustration.
C'est dur à tenir, là.
Et les fractures vont commencer. Hein, parce que, je veux dire, quand Paul Saint-Pierre Plamondon ramène ce qu'on appelle le budget de l'an 1 sur la souveraineté du Québec.
Ouais.
Donc, pas tant le budget, c'est pas tant important, mais ramène la question de l'indépendance au cœur de nos discussions, donc en chronique ensemble entre les politiciens.
Il fait bouger les aiguilles.
Il fait bouger les aiguilles, mais c'est aussi le fait qu'à la Coalition Avenir Québec, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes, et que ces fractures-là qui ont toujours existé, ben là, vont comme émerger au cœur de l'actualité.
Jeff Sommer sur la messagerie texte dit Legault va promettre 500 piastres puis il va remonter d'un vote.
Ça va faire breaker le sol de traîneau pour remonter en haut.
Bang!
C'est aux électeurs de réagir.
J'ai pas pensé à ça, tu mets des 500 piastres en dessous du traîneau, ça le chime.
Ça brête le 3 skis, ça.
Merci infiniment, Philippe Léger. C'est toujours le fun de jaser politique avec toi. Sondage, donc, ce matin, avec une tendance lourde dans le journal de Montréal.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Microsoft lance aujourd'hui son outil d'assistance basé sur l'intelligence artificielle appelé 365 Copilot. Là, je le dis en anglais français, 365 Copilot, mettons. Et si tu utilises Word, Excel, PowerPoint et Outlook, ça va changer ta vie autant à la job qu'à la maison. Comment? On en jase avec l'expert techno Mathieu Roy qui est en ligne. Salut Mathieu!
Avez-vous déjà peur?
Peur, non.
Non.
Mais quand même très curieux de qu'est-ce que c'est exactement 365 Copilot.
OK. Copilot, ça va être intégré à la suite Microsoft 365. T'en as brièvement parlé, ça veut dire que ça va être un assistant, donc une aide à toutes les applications que tout le monde connaît et que les travailleurs, travailleuses utilisent probablement quotidiennement, c'est-à-dire Word, Outlook, Excel, Teams, PowerPoint, ajouter à ça Paint puis le logiciel photo. Ouais. Donc, oui, l'intelligence artificielle de Microsoft va être intégrée à tout ça, mais va avoir accès au web et aussi à votre ordinateur comme tel. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va pouvoir vous faire, je sais pas moi, des suggestions de présentation PowerPoint. Ça pourrait vous faire des résumés d'une heure de vidéo Teams, de conférence Teams que vous avez faite. Donc, l'intelligence artificielle va tout récolter le verbatim et va être capable d'en faire un résumé.
Voyons donc.
Ben oui. Mais après ça, ben, l'analyse de données via Excel pourrait générer des tableaux, va pouvoir aussi simplement vous rédiger des textes. Peux-tu rédiger un texte qui confirme ma présence à cet événement? Et là, on va avoir un beau texte bien écrit, comme on retrouve déjà en ce moment sur Internet. Ouais. Dans Paint, on pourrait simplement demander une création d'image, dire « j'ai besoin d'un joueur du Canadien avec un chandail de Spider-Man » ou encore, on pourrait utiliser le logiciel pour simplement modifier les arrière-plans ou faire de la modification photo, tout ça parce que l'intelligence artificielle reconnaît le contexte et est capable de faire des modifications tantôt graphiques, tantôt textuelles.
C'est malade. C'est quoi? Mais les avantages ou les inconvénients de ce programme-là, les avantages, on les devine, là. Les inconvénients, ce serait quoi?
Ben, c'est sûr que au niveau des inconvénients, il peut avoir une espèce de dépendance par rapport à ce qu'on va utiliser. On va perdre nos réflexes et l'habitude d'utiliser certains logiciels, de réaliser certaines tâches. Puis si vous vous dites, ben non, mais tu sais, je suis capable de faire des tableaux Excel, je vais pas perdre la faculté de faire des tableaux Excel. Je vais vous donner un exemple. C'est quoi les derniers numéros de téléphone que vous avez retenus?
Épelaille. Celui de mon chum au cas où.
C'est le Saint-Hubert et le Domino's, moi.
Mais ben, sinon, clairement, vous n'avez pas reconnu le mien parce que je trouve qu'on ne se parle pas si souvent.
Non, raison, Mathieu,
non
c'est
mais
vrai,
ce que je veux
vrai.
Dire, c'est qu'à force d'utiliser un outil, on en perd la faculté et le réflexe. Donc, ça, il peut avoir aussi, c'est l'intelligence artificielle, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de plein de données. Il peut avoir des suggestions qui sont inappropriées, puis il peut avoir aussi le coût lié à tout ça. Donc, ça, c'est pour les inconvénients, mais les avantages, c'est sûr qu'on parle d'une productivité grandement améliorée. Facilité d'apprentissage, parce que, écoute, moi, j'ai écrit dans ChatGPT, qui est un autre logiciel, oui. Ou en tout cas, une autre intelligence artificielle, j'ai dit, fais-moi un contrat pour que je puisse vendre ma voiture usagée, une Chevrolet Bolt 2017. Puis là, je m'appelle Mathieu, je veux la vendre maintenant. Prap! Il m'a descendu en quelques secondes un contrat de vente pour...
Arrête de niaiser.
Non, c'est fou, là.
Non, incroyable.
C'est hallucinant. Bon, tu sais, vous n'êtes pas sans savoir que je travaille à Salut Bonjour. Georges Potier a quitté celui qui était le lecteur de nouvelles.
Ouais.
J'ai demandé à ChatGPT de me faire un mot de départ pour un homme intelligent, drôle, que l'on dit fort joli, qui lisait les bulletins d'actualité à Salut dans une émission matinale. Il m'a écrit un texte qui, malheureusement, était presque meilleur que celui que j'avais écrit pour lui.
Mais il était pour Guy Mongrain, par contre.
Hey, mais incroyable!
Est-ce qu'il y a un équivalent en ce moment à ce logiciel-là?
En ce moment, il y a ChatGPT, sauf que encore une fois, lui est davantage axé sur le langage naturel pour donner des réponses, se concentre sur la génération de textes. Okay. En fait,
puis il est pas intégré dans ton organigramme, mais ton écosystème de avec lequel tu travailles.
Exactement, c'est en plein ça, c'est ça, et c'est ça le point, c'est qu'en ce moment, il y a tous les outils dont je viens de vous parler, que fera Copilot, ça existe, mais séparément. Soit via des sites web, des applications, des logiciels. Mais là, on est en train de tout inclure ensemble. Puis si Microsoft est le premier, dites-vous bien qu'il y a Bard, B-A-R-D, qui va être l'assistant ou l'intelligence artificielle de Google.
Ouais.
Mais tout le monde va avoir son propre sa propre intelligence artificielle, comme la plupart ont leur propre assistant personnel. T'sais, on a Siri, on a l'assistant Google, puis on a Alexa chez Amazon, tout le monde va être là-dedans. En fait, probablement que sur la couverture du Time cette année, la personne de l'année sera l'intelligence artificielle.
Ben oui. Mais Mathieu, là, si mettons quelqu'un nous a écouté puis veut absolument avoir Copilot, comment ça se passe en 30 secondes? Là, comment ça se passe? Combien ça coûte? Comment je peux l'avoir?
Il y a des mises à jour qui vont être faites. Ça va être sur les versions corporatives pour l'instant. Donc, okay. Mais il va y avoir un déploiement qui va se faire tranquillement, pas vite. Et bien sûr, on va vous offrir au début quelques options qu'on va probablement rendre payantes éventuellement.
Ah oui.
En ce moment, on a gratuitement ChatGPT 3.5, je crois, mais la version 4 est encore plus améliorée. Peut faire de l'analyse d'image, de contexte, peut résumer des PDF, ce que la version 3.5 ne fait pas encore. Mmh.
On est vraiment dans le futur aujourd'hui. Merci, mon cher Mathieu Roy.
Merci, Mathieu.
Écoute, je peux-tu vous laisser en 15 secondes sur le futur de 1997? Tout le monde était terrorisé parce que IBM venait de battre un joueur d'échecs. Écoutez comment c'était rapporté à l'époque.
un jour bien sombre pour le genre humain. 19 mai 97, un ordinateur, un gros tas de puces de silicium, écrasé pour la première fois, un homme. Et pas n'importe quel homme, Kasparov en personne, sûrement le meilleur joueur de tous les temps. Il chutait face à une machine.
Wow. Mais voilà, on était avisé dès 97.
Un jeu d'échecs, mais Kasparov le battait au poignet. Hey, merci mon cher Mathieu, c'est facile.
Ça va aller vite la gang, ça va aller vite.
Mais ça, salut, oui. Salut Mathieu Roy, chroniqueur technologique ici dans Debout les comiques.
Tes comiques, de retour dans un instant.
Debout les comiques, 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
Il y a l'histoire d'un petit garçon de 2 ans qui fait énormément réagir partout sur Internet. Il a 2 ans, à l'époque où ça se passe. Il habite à Rivière-du-Loup. Ça fait réagir parce que le petit garçon de 2 ans, il se fait mordre au visage par un chien. Le chien, c'est un petit Boston terrier. Et la mère, évidemment, elle a dit, moi, dès que c'est arrivé, son petit garçon s'appelle Axel, elle porte plainte à la Sûreté du Québec. Et évidemment, elle réclame l'euthanasie du chien. Tu sais, je veux dire, son petit garçon, non seulement, il y a plein d'images qui circulent sur Internet. Mmh. On le voit, là, c'est vraiment, ça a été assez profond. Et il en garde des cicatrices à vie. Fait qu'elle dénonce la situation sur les réseaux sociaux en plus, parce que le chien fautif, on a demandé à un expert d'analyser son comportement. Et l'expert en est venu à la conclusion que c'était pas recommandé de l'euthanasier nécessairement. Ouais. Donc, le chien peut continuer à être en vie. Il y aura plusieurs conditions à respecter, cela dit. Donc, il a été non seulement évalué par le professionnel, puis le professionnel dit « Oui, je le classe dangereux, mais j'ai 7 recommandations, entre autres, celle de porter une muselière en tout temps, même si, sauf s'il se trouve à l'intérieur avec ses propriétaires ou dans un enclos fermé. Il ne pourra pas s'approcher d'enfants qui ont moins de 10 ans. On demande aussi au propriétaire de réfléchir à la qualité de vie de l'animal. Donc, est-ce que vous voulez continuellement lui faire porter une muselière ou vous y réfléchissez? Le chien aussi devrait être traité pour l'anxiété. C'est pour ça qu'il a mordu. Il faut qu'il soit vacciné annuellement contre la rage et il faut qu'il soit micro-pucé. La municipalité dit qu'on va s'assurer que les recommandations soient respectées. Les propriétaires vont devoir fournir des preuves que tout ça est fait. Cela dit, la mère dit, moi, je m'en fous. Mon petit garçon a été mordu à la joue par un animal agressif. Je désire l'euthanasie du chien.
Puis on a tendance à faire ça depuis tout le temps. Moi, je me souviens, mon père, il disait, un chien qui mord mérite la mort. C'était comme ça que les vieux pensaient dans le temps, puis c'est encore ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
J'ai un grand
neveu,
moi.
Mettons, c'est ton fils.
Ben, c'est mon fils, moi, pour vrai, je vais vouloir que le chien soit euthanasié. Malheureusement, je voudrais pas participer à cette loterie-là que je dis souvent, qu'il va décider quand l'animal de remordre quelqu'un, il va décider quand que c'est acceptable pour lui de sauter dans la face d'un enfant. Je comprends, là, l'idée de protéger les animaux, mais moi, malheureusement, c'est l'euthanasie.
Je comprends, mais moi, je vais apporter quelques nuances à ça. Je suis d'accord avec vous, mais pas à 100%.
790, c'est quoi? On veut vous entendre. Le texto, 96.9. Gênez-vous pas pour réagir. Vous faites quoi, vous autres?
Le podcast Debout les comiques.
Sinon, Valérie, on est en plein débat concernant ce chien qui a mordu un enfant de 2 ans. Le jugement a été rendu à l'effet qu'on n'euthanasiera pas le chien, non. Mais il y a une série de restrictions à suivre, le propriétaire, par exemple, le maître du chien.
Cette recommandation, ouais. Parce que, dans le fond, on a évalué le chien, un expert, un vétérinaire a évalué le chien, puis entre autres, c'est une muselière en tout temps, il va falloir que ce soit micro-pucé, traité pour l'anxiété, parce que on soupçonne, selon le vétérinaire, que c'est l'anxiété qui aurait engendré la réaction, mais la mère du petit garçon, Axel, qui a 2 ans, dit, ben moi, je trouve ça pas de bon sens, il aurait fallu le faire euthanasier, le chien. Mon petit garçon, il va vivre avec une grosse cicatrice au visage en tout temps.
Ouais. Puis tu peux pas demander à un enfant de 2 ans non plus de complètement se comporter non plus.
Pas du tout.
Malheureusement,
c'est à l'animal.
C'est l'animal et son maître d'être sûr que ça arrive pas. Mais ceci dit, Étienne, t'es pas nécessairement d'accord avec l'idée. Moi, j'étais très très radical. Un chien qui mord mérite la mort. Là, je reprenais la phrase de nos grands-parents. Là,
ben moi, j'irais pas là parce que je suis pas capable de catégoriser ça comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en chemin. Mm-hmm. Je prends l'exemple, c'est un chien guide là, peut perdre les pédales, puis à un moment donné, mord. Puis je pense pas que faut nécessairement parce que le chien mord ou parce qu'il fait une gaffe ou puis ça peut être terrible j'en conviens là mais de dire il faut que ça soit la mort directement je suis pas certain moi de ça puis il y a quelques personnes sur la messagerie il y a Lynn entre autres qui m'a écrit moi mon chien c'est devenu comme mon fils
et
je le comprends ça faut faire attention
cet attachement là effectivement qui est bien réel il y a Sandra qui est en ligne et qui veut réagir salut Sandra
Oui, allô?
Sandra,
allô?
Toi, t'as déjà été mordu par un chien, c'est ça?
Oui, je te parle de ça il y a 30 ans. J'avais été mordu par le Doberman de mon oncle.
OK.
Puis, juste après que ce soit arrivé, mon oncle a décidé de donner le chien à un autre propriétaire. Puis, malheureusement, il a dévisagé sa petite fille de 14 mois au visage.
Ah là là, que, là 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 là.
Ouais, le propriétaire a pogné sa carabine, puis il l'a tiré dans sa cour. Là. Mm.
Ça a été fait là. Puis toi, Sandra, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu te débarrasserais de ce chien-là?
Ben c'est sûr, s'il mord une fois, c'est sûr qu'il va mordre encore, là. C'est sûr, là.
C'est ce que t'as vécu. Est-ce que t'en gardes des séquelles de cette morsure-là?
J'ai des cicatrices au niveau de l'oreille puis sur la tête, là, mais rien d'extrême. On le voit pas, là.
OK. Merci, Sandra, d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est apprécié.
Bonne journée.
Pour vrai, il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a qui disent on pourrait faire la même chose avec l'humain. Ben non, là, on est dans une société humaine. C'est pas de ça qu'on parle.
Oui, c'est un chien, là. Mais il y a Eliakim Brabant qui dit sur la messagerie texte, moi, je me suis moi-même fait mordre par un chien quand j'avais 11 ans. Et c'est moi qui voulais pas qu'on le fasse piquer parce que à l'époque, je me sentais mal. Mais aujourd'hui, je pense que c'était la bonne chose à faire,
ouais.
Le faire euthanasier.
T'sais. Mais je pense qu'il y a une nuance sur le fait de prendre la décision pour son chien. Personnellement, là, moi, le père de deux enfants, si j'ai un chien qui mord mon enfant de cette façon-là, moi, je prends pas de chance, pour vrai. Sauf que de l'imposer à quelqu'un, alors que les recommandations, de la manière qu'elles sont écrites là, là, ça fait en sorte qu'il est un peu hors
si
de
se conforme course. À ça, là, si se conforme à ça, ça n'arrivera plus.
Mais de forcer quelqu'un à le tuer, il y a tout le contexte qu'on connaît pas au complet.
C'est ce que Julie dit, il faudrait connaître les circonstances aussi, parce que est-ce que c'est dans un endroit public? Est-ce que c'est.
Mais encore là, moi, ce sur quoi j'en ai, c'est juste l'équation. Mm-hmm. Tu meurs.
Ouais, je comprends.
Ça, j'ai de la misère avec ça.
Je comprends, puis c'est plus nuancé à ça, puis les expertises, sont plus raffinées maintenant, mais quand même, ceci dit, vous êtes vraiment, tu l'as dit, Valérie, d'entrée de jeu, c'est deux sujets qui nous passionnent, les enfants, on doit aussi éduquer nos enfants, t'as raison, mais je reviens encore, c'est un enfant de 2 ans, là, qui peut ne pas comprendre, puis il est dans l'innocence de la vie, puis il a le droit d'être là, t'sais.
Parenthèse, les faits, ça s'est passé dans un camping du Bas-Saint-Laurent, cette altercation-là, entre le petit garçon et le chien, et le petit Axel, ce qu'on dit, c'est qu'il serait passé trop près d'où se trouvait le Boston Terrier. Et la mère dit qu'il a vraiment attaqué sans raison. Et de là, la recommandation du vétérinaire par rapport au traitement de l'anxiété. Mm-hmm. Alors, le chien était potentiellement anxieux et aurait attaqué le petit garçon qui serait passé trop près.
Décidément, ça fait vraiment réagir.
Mais c'est certain.
Merci, c'est
viscéral. Les enfants puis les animaux de compagnie, un animal de compagnie, c'est comme un autre enfant.
Et puis comprends bien là, que j'ai l'air d'avoir le cœur dur. Puis Mao, mettons, mon chien mordrait quelqu'un.
Ouais.
Ça me déchirerait le cœur, tu comprends? Mais je pense que je le ferais euthanasier.
Juste mini-parenthèse, le chien avait déjà mordu 7 personnes avant.
Mais là, on est ailleurs.
Ouais.
Non, là, c'est un autre c'est game, sûr, là. C'est un récidiviste. Là.
T'es comique, de retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
Sarah, il y a un moment que tu as vécu, c'est vendredi dernier que c'est arrivé.
Exactement.
Un moment que tu vas nous raconter.
Oui, puis tu sais, je vais mentionner d'entrée de jeu que je pense pas que j'aurais parlé de ça si ça avait pas été du fait que Marie-Annick Lépine a partagé la vidéo.
Elle a filmé ça.
C'est l'ami de Carl Tremblay qui a partagé une vidéo sur...
Sa conjointe est violoniste des Cowboys.
Exactement. Marie-Annick. Et elle a repartagé ça sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai beaucoup trop de respect, tu sais, pour dire que je vais étaler ça sur la place publique. Puis c'est vraiment un beau moment qu'on a vécu. En fait, un moment extrêmement touchant. Ce qui se passe, je vous mets en contexte. Ma tournée est terminée, mais il y a plusieurs mois, Marie-Annick nous avait demandé de venir jouer dans la petite salle. Ça s'appelle le Vieux Palais de l'Assomption.
Ouais.
C'est dans ta ville,
ouais,
Martin.
Absolument.
C'est une petite salle, tu sais, debout, cordée, là, 130 max. Là, on est full, là. Puis tu sais, j'aime ça beaucoup faire des festivals. C'est une autre énergie. Mais là, une petite salle comme ça, il y a quelque chose qui appelle au secret. Il y a quelque chose à chuchoter, puis je me plais beaucoup aussi dans ce genre de spectacle-là. Et là, Marie-Annick me mentionne le fait que cette soirée-là, le show était le 28 octobre, mm-hmm. C'est la fête à Carl le 28, ça s'est vendu en 24 heures les billets, elle a même pas pu dire « je vais inviter ses amis ». On a fait une supplémentaire la veille, le 27, et c'est ça, et là, moi, je dis, ben là, c'est pas vrai que je vais aller jouer dans le cadre de la fête de Carl et que je vais arriver les mains vides. Mm-hmm. Fait que j'ai écrit à Marie-Annick, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi
la toune préférée de Carl de tous les temps, là. Elle me dit toute l'œuvre de Pink Floyd, elle dit tout ça, ça fait. Fait que j'ai dit, OK, c'est parfait. Puis j'ai dit, c'est quoi sa toune préférée des Cowboys Fringants? Mm-hmm. Puis elle me dit, Carl, il y a une toune qu'il a écrit, c'est Pop Royal et c'est sa préférée. Fait que là, moi, j'ai dit, parfait, moi, je vais
l'approprier puis lui offrir.
Exactement. Donc, et la première chanson qu'on a interprétée, et là, on arrive le soir du spectacle, puis moi, je suis hors tournée, là, fait que j'ai comme pu, mes histoires sont rendues loin dans ma tête, et je me dis, je vais y aller commando, là, tu sais, je vais y aller freestyle avec ce qui va venir. Je pense que les trois quarts des histoires que j'ai racontées ce soir-là, je les avais jamais racontées en show, là. Mm-hmm. Et là, et arrive le moment où c'est le moment de célébrer la fête, et là vient le temps de prendre parole et d'expliquer que c'est une soirée spéciale parce que c'est la fête de quelqu'un de spécial. Et là, Carl est assis dans le coin et il ne se doute pas du tout de ce qui va se passer. Et j'ai dit, ben là, j'ai posé la question à savoir c'était quoi sa chanson préférée et de tous les temps. Et là, on arrive avec, on part la toune de Time de Pink Floyd pour mettre en contexte, c'est cette chanson-là. Qui est sur l'album Dark Side of the Moon. Et là, on fait cette chanson-là, et quand arrive le moment où ce que là, Carl entend les premières notes, et que je dis, ben, c'est pour toi. Et là, j'ai vu sa face faire comme, oh, ouais. Donc, toute la chanson se passe bien. Et là, c'est là que ça s'en vient à la deuxième toune. Car, ce que Marie-Annick m'avait dit, sa chanson préférée, c'est Pop Royal, comme je vous ai mentionné. Et, pendant la semaine, j'étais pas capable de m'endormir, puis il y avait comme des phrases qui me venaient en tête et je les ai écrites un peu parce que je me suis dit je peux pas laisser ça partir et c'est ce que j'ai lu comme texte avant d'introduire cette chanson là à quel point les Cowboys m'ont accompagné depuis mon secondaire 3, tu sais ils marquent un peuple entier, ben plus que juste une génération, tu sais. Et là je m'apprête à chanter, mais là moi je viens en émotion incapable de pouvoir parler ni chanter. Je me promène sur la scène et tout ça, vous pouvez aller voir ça sur la page de Marie-Annick ou sur ma page pour revoir ce vidéo-là. Et bref, j'arrive à dire le texte. Et
mais t'as eu de la misère. Sur la vidéo, on te voit, tu pleures, là. T'es vraiment dans l'émotion.
Moi,
là,
il a fallu que je me parle. Tu sais, je pensais que j'allais pas être capable. Puis à un moment donné, j'ai pris un grand respect. Puis là, je me suis dit, le moment, là, tu sais, faut que tu m'aides ou quelque chose de même. Là, je me suis dit, OK, là, j'y vais, je me lance, advienne que pourra. Et là, je pars la toune, et là, ça décolle. Et là, c'est là que Marie-Annick, oui, elle a. Oui, c'est ça, on va mettre un extrait, c'est vrai, on a un extrait de la chanson. Et je veux quand même mentionner que c'est un extrait qui a été filmé avec un cellulaire.
Ah, oui,
donc, le son n'est pas super.
Tout ça,
on l'entend dans ma voix.
Sarah, sois pas gênée de ça, parce que Jessica Léonard a dit, je viens de voir la vidéo, Sarah, je pleure dans mon lit. Oui. Et il y a Julie, a dit, pour avoir été présente à cette soirée de l'Assomption, c'était l'émotion. Oui. À l'état pur, c'était tellement magnifique. C'est comme ça que ça a été perçu par les gens là-bas aussi.
Exactement. Même quand j'ai revu pour la première fois, parce que c'est l'ami de Carl qui filmait, qui m'a envoyé la vidéo, j'ai pas été capable, j'ai comme revécu l'émotion en écoutant ça. Ce que je mentionne pas, c'est que pendant le début de la chanson, Marie-Annick est assise avec son chum. Elle dit, oh, je vais aller me chercher un verre puis voir si nos amis sont corrects. Mais elle est partie backstage, est allée prendre son violon. Ah. Et là, on a décollé la toune et elle vient nous rejoindre sur scène. Puis elle est déguisée en pirate parce que c'était le soir de l'Halloween à l'Assomption. Et là, on décolle. Puis là, moi, de la voir, là, c'est là que j'ai craqué, si on peut dire. Je savais qu'elle viendrait me rejoindre, mais je savais pas l'émotion que ça allait me faire. Je pense que tout le monde qui était là, on a tout reçu ça. C'était tout un moment émotif qu'on a vécu tout le monde ensemble. Puis même à ce jour, je me dis, mon Dieu, j'ai-tu vraiment vécu ça?
Il y a quoi de weird aussi qu'elle soit d'exemple pirate. Vive cette émotion-là.
Des cow-boys et des pirates.
À la fin, c'était Carl, il s'est levé, il est venu nous prendre dans ses bras. Puis moi, tu sais, ça fait partie des grands moments là, tu sais, de ma vie touchant que j'aurais vécu.
Le meilleur des comiques, sur demande. Avec le Doc Michael Bensoussan.
Non, jamais entendu parler.
Il y a des articles récents qui confirment ce qu'on a tous déjà observé. Les hommes ne vont pas chez le médecin, en tout cas énormément moins que les femmes. Pourquoi les hommes vont moins voir le docteur? Justement, un docteur, on en a un pour en parler. Michael Bensoussan, tu es salué.
Salut, bonjour.
Bonjour, Michael.
Considère-toi comme salué également, mon cher Martin.
Exactement. Écoute, quels sont les chiffres qui viennent lancer une alarme sur ce sujet? Et est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, dans ta pratique médicale?
Alors, c'est très intéressant parce que effectivement, c'est des chiffres où, en partant, on était plutôt sur des analyses qui sont européennes. Et j'ai essayé de transposer ça au Québec, c'est vrai. Au niveau européen, mais c'est très global, on avait demandé en France et dans d'autres pays limitrophes combien de femmes et d'hommes avaient vu en dedans d'un an leur médecin généraliste. Mmh. Et en fait, 88% des femmes disaient qu'elles avaient vu un médecin généraliste en dedans d'un an, et c'était seulement 80% pour les hommes.
Ok, je pensais que ça aurait été plus bas que ça.
Et pourtant, cet écart était encore plus marqué pour une visite chez le dentiste. 60% des femmes ont vu un dentiste cette année versus 50% des hommes. Oh. Et alors, chez les médecins spécialistes, on est sur du 55 versus 40. Donc, très clairement, les hommes voient moins leurs médecins et ont moins recours à des professions de santé que les femmes. Quand j'ai essayé d'avoir des chiffres un peu officiels au Québec, c'était déjà très compliqué parce que, comme vous le savez, au Québec, on a ce storytelling du ministère de la Santé qui nous dit que 82% des patients ont un médecin de famille au Québec. En tout cas, moi, ma réalité, et ça, c'est plutôt dit que dans le Grand Montréal, c'est plutôt 50% des gens. Mais il est impossible de savoir, dans le nombre de consultations chez le médecin, parce que ça ne fait pas l'objet d'un recensement, quelle est la quantité d'hommes et de femmes qui vont voir leur médecin. En revanche, en étant face à ces chiffres-là, il y a des chiffres, moi, qui m'ont sauté au visage et qui me font mettre en lumière qu'on a peut-être mis le doigt sur une explication très importante. Je vous rappelle qu'au Québec comme ailleurs, les femmes vivent en moyenne 3 à 4 ans plus longtemps que les hommes. Ouais. D'accord? Les femmes, on n'a jamais eu vraiment et expressément l'explication de ça. Pourquoi au Québec, la durée de vie moyenne d'une femme, ce serait de 81 ans, alors qu'un homme, c'est 78 ans? Est-ce que l'un des éléments de réponse n'est pas justement que les hommes feraient moins attention à leur santé? Et quand tu regardes par le prisme de la santé mentale, je vous rappelle ce chiffre, en Amérique du Nord, 75% des suicides et des tentatives de suicide, c'est des hommes.
Ouais.
Donc, est-ce que là encore, ça n'est pas parce que la problématique de santé mentale n'est pas adressée dignement, ou en tout cas plus dignement que si on était une femme? Je crois qu'on est en train de parler de quelque chose de fondamental.
Et tu l'expliques ça comment? C'est quoi les conséquences sur la santé des hommes? Tu le dis, là, il y en a qui...
Alors, c'est pas moi qui l'explique particulièrement, parce que effectivement, moi, j'essaye de projeter ça sur ma pratique. C'est vrai que, par exemple, moi, sur la pratique d'un gastro-entérologue, quand on voit des problèmes de colon irritable, ça va être 85% de femmes, par exemple, mais quand on voit des problèmes de maladies inflammatoires, c'est 50-50. Ou en tout cas, sur la cancérologie, c'est 50-50 aussi. En revanche, sur les publications qu'on a pu lire, par rapport à cette problématique qui a été analysée, il y a des psychologues qui ont analysé ça et qui disent, ben, les jeunes femmes, déjà, il y a une pression sociale qui dit que les jeunes femmes, elles sont plus maternantes. Donc, elles s'occupent du monde,
les
elles autres, s'occupent
ouais.
des autres, elles s'occupent de tout le monde et possiblement aussi que, du coup, elles ont plus tendance à s'occuper d'elles-mêmes. Alors qu'un jeune homme, lui, il est supposé de s'endurer. Et même les pédiatres disent, ça apparaît même dans les salles d'attente à Sainte-Justine.
Ah,
tu vois,
ouais.
quand une jeune fille a bobo, on la console, quand une petite fille à bobo, on la console. Quand un petit garçon à bobo, puis qu'il a arrêté de pleurer, on lui dit, c'est bien, t'es un dur, t'es un vrai, bravo. Donc, il y a une sorte de pression sociale et je dirais, finalement, de déterminisme qui apparaît depuis l'enfance. Ça, c'est ce que disent les psychologues. Les sociologues disent aussi que les hommes ont tendance à considérer leur corps comme un outil. Comme quelque chose de très fonctionnel qui va leur servir à faire quelque chose, à travailler, à transporter des meubles, des bûches, couper du bois, faire du feu, aller chasser le gnou. Bon, bref. En tout cas, les hommes, tant que ça fonctionne, ne vont pas consulter chez le docteur. C'est à partir du moment où ils peuvent plus se servir de leur corps comme d'un outil fonctionnel que là, ils vont aller consulter.
Michael, on te garde avec nous. Tu vas nous donner une mini piste de solution pour inverser cette tendance-là au retour et répondre aux questions de nos auditeurs. Ouais. Continuez de le faire sur le 96.9,
96.9. Le podcast Debout les comiques.
Le sujet de ce matin, c'est les gars qui vont moins voir le docteur, le médecin, les services de santé que les femmes. Est-ce que tu as une mini-piste de solution pour inverser cette tendance-là,
Mais
Michael?
Oui, c'est pour ça que je suis content de parler aux auditeurs et aux auditrices, parce que ça va être sur l'éducation, ça. Étant donné qu'on est en train de dire que sociologiquement et psychologiquement, ces déterminismes arrivent dès l'enfance, il faut savoir, lorsqu'on élève ses enfants, d'une part, expliquer qu'un besoin, ça n'est pas une faiblesse, que devoir aller consulter, ça ne veut pas dire qu'on est un pauvre petit gars. Ceci vaut aussi dans les classes, dans les salles de sport, dans les clubs de sport. C'est vraiment, on en a beaucoup parlé déjà, vous savez, avec tout ce qui était les traumatismes crâniens et les commotions cérébrales. Ça a été tout un combat de devoir retirer quelqu'un pendant 7 jours des activités sportives quand il a une commotion cérébrale parce que tout le monde allait se moquer de lui et dire t'es donc ben moumoune, etc., etc. Ça n'a,
c'était qui maintenant? La Ligue nationale de hockey, mettons, le joueur va sortir du match, puis il y a un protocole, puis on dirait que ça nous aide à.
C'est ça, mais dès
comprendre.
Les adolescents, ça se joue dès l'âge scolaire. Donc, et puis évidemment, lever les tabous, ça aussi, on le fait beaucoup ici. Ouais. On parle de colon, on parle d'hémorroïdes, on parle de prostate, on parle de reflux, on parle de vomi.
Coloscopie.
On parle de coloscopie, on parle de la coloscopie de Martin.
Ouais.
On parle de tout et on lève les tabous parce que des tabous, il n'y en a pas.
Ben oui.
Voilà.
Mais c'est ça la vie, tu sais.
Absolument.
Alors maintenant, avec les questions de nos auditeurs, Valérie nous a envoyé une question sur une allergie au soleil qu'elle a. Elle a des boutons partout sur le corps après l'exposition.
Et oui, ça arrive.
La question, est-ce qu'il y a une médication, un vaccin pour que je cesse de réagir?
Oui.
Je ne peux pas aller une heure au soleil.
Oui,
alors
la pauvre, il focalise là-dessus. L'allergie au soleil, c'est assez fréquent, ça s'appelle une lucite. La lucite, c'est l'allergie à l'exposition aux UV. C'est galère. Je ne peux pas cacher à notre auditrice que c'est galère. C'est pas une question de désensibilisation, mais je vais quand même lui donner de l'espoir. La lucide, ça disparaît avec le temps. Ça, c'était pour l'espoir. Maintenant, l'espoir est sur une certaine temporalité puisque ça disparaît en 10, 15 ou 20 ans.
Okay.
Donc, elle en a quand même pour un petit temps. Alors après, il y a ces pilules de Nobiol, là, c'est recommandé. Elle peut en prendre un mois avant son exposition solaire qui contient de la carotène, etc. Ça va beaucoup l'aider, mais il faut anticiper. C'est 4 à 6 semaines avant l'exposition solaire. Sinon, c'est des médicaments. C'est des médicaments que donne le dermatologue qui peuvent l'aider à s'exposer au soleil. Mais donc une consultation chez le dermato serait très indiquée pour cette lucite. Mais sinon, ça va être la patience et ça va être se protéger contre le soleil. Je suis absolument désolé. La lucite, c'est pas très grave, mais c'est un peu dérangeant.
Ça. Toujours sur la messagerie texte, il y a Martin qui dit j'ai un problème d'éjaculation tardive.
Il n'y a pas de tabou.
Voilà.
Non, c'est pas moi.
Je ne sais pas si c'est à cause des médicaments ou à cause qu'on veut être super performant ou bien les deux. Mais pour moi, ça entraîne des douleurs. Donc, c'est quoi l'éjaculation tardive?
Alors, Martin, déjà, bravo d'écrire à la messagerie texte pendant que tu es en train d'animer une émission.
Non, c'est Martin Pelletier.
Pelletier, pardon. Alors, il y a vraiment beaucoup de gars qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, mais c'est quand même plus rare d'avoir quelqu'un qui vient nous expliquer l'éjaculation tardive, donc a du mal à arriver. Ça peut être de l'anéjaculation, carrément, on a des érections qui durent longtemps et qui ne sont pas sanctionnées par une éjaculation. Ça, c'est un problème en général qui est vasculaire et qui s'appelle le priapisme. Mais en revanche, quand c'est une éjaculation tardive, qui met du temps à venir ou parfois qui ne vient pas, comme la plupart des problèmes d'éjaculation, y compris les éjaculations précoces, souvent ça se passe dans la tête. Donc on pourrait faire 12 chroniques là-dessus.
Ben ouais.
Donc ça va être compliqué d'expliquer à cet auditeur est-ce que cet auditeur est un grand consommateur, par exemple, de pornographie. Est-ce que ça c'est beaucoup, est-ce que c'est lié à ses fantasmes, est-ce que c'est lié à ses envies, est-ce qu'il a changé récemment de partenaire, est-ce que la lubrification de sa partenaire est idéal ou il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, mais il n'y a pas de maladie organique sous-jacente à proprement parler par rapport à ça. La solution va très, 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 très souvent être par le dialogue avec sa partenaire, l'introspection, se calmer un peu sur la consommation de pornographie et surtout essayer de faire la paix avec la cause numéro un des troubles d'éjaculation qui est ce stress de performance dans la relation sexuelle chez les hommes.
Merci infiniment, Michael.
J'ai un saviez-vous que de 10 secondes, me dit monsieur le juge. Alors, le saviez-vous que c'est bientôt Halloween et la période de Noël. Nous allons donc manger des choses, notamment des dindes avec dedans des marrons et des châtaignes. Eh bien, sachez, les amis, qu'un marron, voyez-vous un marron?
Non.
Une châtaigne, voyez-vous une châtaigne?
Non plus.
Si, vous le voyez. Eh bien, c'est exactement à ça que ressemble une prostate. Très exactement, sur la taille et quasi sur la consistance. C'est un tout petit peu plus souple la prostate, mais avec un petit sillon au milieu. Et donc, je vous donne ce petit truc d'étudiant en médecine. Quand nous faisons un toucher rectal et que nous allons chercher la prostate, nous allons essayer de palper un marron avec son petit sillon au milieu. Et si c'est un marron qui est de travers, un marron où il n'y a pas de sillon, ou un marron qui est trop dur, c'est donc un marron qu'il faudra enlever. Voilà.
Mais au Québec, il y a moins de marrons et de châtaignes dans nos dindes. Hein?
En tout cas, il y en aura moins chez nos auditeurs à Noël cette année, j'en suis certain. J'avoue.
Merci. Merci le doc Michael Bensoussin avec nous à chaque mardi ici dans Debout les comiques.
Le podcast Debout les comiques.